Ensuite, la vie familiale. J'ai trouvé aussi beaucoup de versets qui parlent des relations entre les parents et les enfants. Et là aussi, on va aller peut-être quelquefois à contre-courant de ce qu'on pense dans la société aujourd'hui. Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qui l'aime met de la diligence à le discipliner. Donc, ici, la sanction, la punition, même éventuellement physique, est vue sous son aspect positif. Il s'agit de discipliner. Discipliner, il ne faut pas voir ça toujours sous un aspect négatif, agressif. Discipliner, c'est rendre disciple. Donc, c'est ça le but de la correction éventuelle. Il s'agit de mettre les enfants sur un bon chemin, sur une bonne route. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est pas ça qui va changer le cœur de l'enfant. On est tous bien d'accord que ce qui peut transformer un cœur, c'est la foi au Seigneur Jésus et c'est l'action du Saint-Esprit en nous. C'est ça qui va opérer un travail profond. Donc, on ne va pas faire de quelqu'un de mauvais par nature, quelqu'un de bon qui va devenir bon par des corrections. Mais en tout cas, me semble-t-il, on va au moins lui éviter de devenir un monstre. Et il y a un verset qui dit aussi, « La loi a été notre conducteur jusqu'à Christ. » Jusqu'à ce que Christ prenne entièrement toute la place et prenne entièrement les rênes de la vie d'un enfant, il est bon aussi de donner quelques repères et aussi de les faire comprendre, s'il le faut, par la sanction. « Il n'en mourra pas, hein, » dit un autre passage. « Mais ne te laisse pas aller à l'idée de le faire mourir », un autre proverbe aussi. Donc il ne s'agit pas du tout de violence, ni de colère, de défoulement. Il s'agit simplement de faire comprendre à l'enfant, par ce moyen-là, qu'est-ce que c'est que le bien et qu'est-ce que c'est que le mal. L'explication se trouve dans le proverbe suivant. « La folie est liée au cœur du jeune enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » Donc ça aussi, ça renverse l'idée que l'homme est bon par nature. C'est la société qui le corrompt, comme disait un philosophe. Ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Au contraire, l'homme est mauvais par nature. Donc il faut une sorte de garde-fou que va être la discipline, voire la sanction. Et ensuite, la solution finale étant bien sûr que le Saint-Esprit transforme le cœur d'une personne. Et alors après, il faut être assez nuancé. Élève le jeune garçon selon la règle de sa voix. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Alors selon la règle de sa voix, on a souvent souligné cette expression. Ça semble vouloir dire que chaque enfant nécessite une pédagogie différente, une éducation différente. Alors là encore, je ne suis pas vraiment expert pour parler de ça, mais personne n'est expert en fait, puisque chaque enfant est différent. Voilà, ça demande certainement de la part des parents dépendance et prière pour trouver la bonne attitude, le bon dosage entre l'affection qu'on délivre et aussi la discipline pour amener l'enfant sur la bonne voie. Voilà, chaque enfant a sa voix. Et il faut trouver la règle de sa voix. Ensuite, l'idée du respect aux parents, qui revient souvent, et pas que dans les proverbes d'ailleurs. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers la mère, les corbeaux du torrent le crèveront et les petits de l'aigle le dévoreront. Et c'est terrible hein, comme image. Hein. Ça montre à quel point Dieu attache de l'importance au respect des parents. Et il faut souligner que c'est le 5e commandement des 10. On peut dire qu'il se trouve au milieu des 10 commandements, presque un peu tout seul à part, puisque avant vous avez 4 commandements qui concernent directement Dieu lui-même. Après, bien ça concerne les 5 derniers, concernent le prochain. Et puis là au milieu, vous avez presque, on pourrait dire, entre le prochain et Dieu. Donc il y a l'idée d'un quelque chose qui est un petit peu au-dessus du prochain, le respect des parents. Honore ton père et ta mère, avec promesse, comme dit le Nouveau Testament. Donc voilà, c'est à ne pas oublier. Dans le monde d'aujourd'hui, où peut-être il y a plus de liberté, il me semble, entre les enfants et les parents qu'autrefois. Peut-être un peu moins le sens du sacré, du respect, dû au rang. On est un peu trop dans un sentiment d'égalité. N'oublions pas, il faut que les enfants et les jeunes gens n'oublient pas que, voilà, on ne peut pas avoir avec ses parents la même liberté qu'on a avec des camarades, par exemple. Quelquefois, on déblague un petit peu, on prend des libertés avec des camarades. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre certainement avec des parents. Il faut se rappeler de l'histoire de Noé aussi, qui est assez dramatique, hein, puisque Cam a reçu une malédiction parce qu'il s'était moqué de son père. Donc c'est des choses qui restent dans la parole de Dieu, l'importance du respect aux ascendants. Alors on passe ensuite à la vie professionnelle. Beaucoup de versets sur la vie professionnelle, vous avez une liste pas forcément complète. J'en ai choisi quelques-uns. Des mains nonchalantes attirent la pauvreté et des mains actives procurent la richesse. Alors ça, je me suis dit que c'était peut-être le verset préféré de Sarkozy, celui-là. Parce que c'est « travailler plus pour gagner plus ». C'est tout à fait ça. C'est l'idée. Eh bien, figurez-vous qu'on a plusieurs versets dans ce sens-là. C'est toujours l'idée que, voilà, si tu veux gagner ta vie, tu travailles. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est confirmé dans le Nouveau Testament. « Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus ». De Thessaloniciens 3, verset 10. Donc l'idée du mérite. Il me semble que l'idée du mérite est bien présente dans la Bible. Alors vous allez me dire, est-ce que la Bible est de droite ou de gauche? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. J'avais réfléchi à un sujet comme ça avec des jeunes une fois, et on était arrivé à la conclusion qu'elle est un peu des deux, en fait. Parce que, sous un certain aspect, donc il y a l'idée du mérite. Voilà, celui qui fait rien, ben, il n'a rien, hein, tant pis pour lui. Bon, mais enfin, il y a ceux qui ne peuvent pas travailler aussi. Hein, c'est pas... Et puis, il y a des difficultés nombreuses dans la vie. Il faut une certaine solidarité vis-à-vis de ceux qui n'ont pas trop la possibilité de gagner leur vie. Alors, la Bible répond aussi à ça. De Corinthiens 8, sur un principe d'égalité, celui qui ne recueillait moins n'avait pas moins, et celui qui recueillait plus n'avait pas plus. Voilà, il y a le principe d'égalité. Ça, c'est une idée de gauche, entre guillemets, enfin, qui a été reprise par la gauche. Voilà. Donc l'idée à la fois du mérite et l'idée de la solidarité. Voilà, la Bible, elle donne les deux. Bon, je ne veux pas dire pour autant que la Bible est du centre, mais en tout cas, elle a inspiré des idées qui sont sur la droite et elle a inspiré des idées qui sont du côté de la gauche. Voilà, il y a un équilibre dans la Bible en tout cas. Ce qui ferait un peu moins plaisir peut-être à notre président, c'est le verset suivant. « Ne te fatigue pas à courir après la richesse, cesse même d'y penser. » Prends tes RTT quoi. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Voyez, c'est pour autant pas le capitalisme à tout va, la course au profit, gagner le maximum. Voilà, il y a une sobriété quand même. Oui, qui travaille gagne de l'argent et c'est mérité. Mais pour autant, il ne s'agit pas de courir au profit. Voilà. Donc on est dans du raisonnable. Ne pas mettre tout son cœur dans le travail, ni dans la course aux richesses. Comme le Seigneur l'a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, la rouille et la teigne les gâtent et où les voleurs percent et dérobent. Voilà, donc pas de course au profit. Ensuite, toujours dans la vie professionnelle, l'honnêteté. Avoir deux poids et deux mesures, voilà qui est détestable aux yeux de l'Éternel. Donc, ça nous engage, me semble-t-il, à être juste dans notre activité professionnelle, aussi dans notre déclaration d'impôts. La bonne balance, hein, la fausse balance est en abomination à l'Éternel, dit notre passage. Ici, c'est l'idée aussi de l'équité, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de favoritisme. Et bon, j'y pense souvent, hein, ce verset en tant qu'enseignant. C'est vrai que quelquefois, un bon élève, on va plus facilement passer sur certaines choses parce qu'on a une bonne impression. Et si on a une impression négative, un a priori négatif, on va avoir tendance à tout de suite sanctionner un élève parce qu'il a fait une petite bêtise, mais qu'on sait que ça risque de dégénérer. Donc c'est toujours un peu délicat. Mais je crois qu'il faut vraiment, en tout cas, ne pas faire de différence. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'a priori, ne pas partir avec des a priori. Bien sûr, il y a des fois où des personnes ne vous inspirent pas confiance et on ne peut pas dire qu'elles l'ont volé, cette situation-là, alors vous allez être plus vigilant. Mais en tout cas, ne jamais avoir d'a priori sur le faciès ou le je ne sais quel souvenir d'un passé assez lointain d'une personne. Avoir vraiment un souci d'équité, d'avoir les mêmes poids et les mêmes mesures pour chacun. Ensuite, un autre verset intéressant, me semble-t-il, dans l'économie. Où il n'y a point de bœuf, la crèche est vide. Et l'abondance du revenu est dans la force du bœuf. Je trouve que c'est magnifique ce verset. Ça montre l'importance de l'outil de production. Vous voyez, ce qui fait la performance d'une exploitation agricole, ce n'est pas la quantité de foin qu'il y a, c'est la force du bœuf. C'est-à-dire c'est l'outil de travail qui va permettre de travailler et de produire encore. Ce n'est pas les réserves de production qu'on a. Vous voyez, donc priorité à l'outil de production. Et l'importance de l'investissement dans l'outil de production. Vous voyez, ne pas consommer ce que l'on gagne, mais savoir investir. Investir dans ce qui va produire. C'est tout simple comme principe. Hein. Et je me demande d'ailleurs si on dit que les protestants réussissent bien à faire en général. Hein, parce qu'ils ont un peu ce sens de pas trop dépenser pour profiter de la vie et de réinvestir peut-être les agriculteurs. Moi, je vois, hein, moi, je suis issu d'une famille paysanne. Mes parents n'ont pas beaucoup profité de la vie et ils ont beaucoup réinvesti toujours dans l'outil de production. Il y a quelque chose dans la Bible qui nous encourage à ça. Et je pense que c'est vraiment un facteur de réussite dans les affaires, ça. Dernier verset, « Prépare ton ouvrage au dehors et mets en état ton champ, et après bâtis ta maison. » C'est le même principe, vous voyez. Il faut d'abord s'occuper de mettre en état le champ, parce que c'est lui qui va produire. Et ensuite, on s'occupe un petit peu du confort, bâtis ta maison, l'idée du confort. Vous voyez, toujours cette idée, il faut assurer sur le long terme avant de profiter sur le court terme. Bon, et bien sûr, on peut faire aussi une prolongation de ce verset, le prendre peut-être au deuxième degré, beaucoup y ont vu, l'importance pour un jeune homme d'avoir une source de revenus avant de se marier. Mets en état ton champ, finis tes études, trouve un travail et ensuite marie-toi. Bon, alors je ne veux pas faire des règles extrêmement rigides à ce sujet. Il y a peut-être des solutions quelquefois, mais enfin, quand même, l'idée est là. C'est important qu'un jeune homme pense à la subsistance de sa famille avant de la fonder. Alors, on passe maintenant à la vie politique. Bon, c'est peut-être un peu osé de parler de politique à partir de la Bible, mais enfin, il y a des choses là-dessus, sur les rois. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Alors vous voyez, ça pose la question du rôle politique du chrétien. Est-ce qu'un chrétien doit faire de la politique? Vaste question. On a dans la Bible des hommes de Dieu qui ont fait de la politique. Moïse, Daniel, Joseph, avec succès. Ils ont été des éléments de réussite des pays où ils ont agi. Et c'était toujours dans un contexte idolâtre d'ailleurs. Ils étaient au milieu des idolâtres. Bon. Alors, mais dans l'ensemble, vous savez, dans le Nouveau Testament, il est vraiment insisté sur le fait que nous ne sommes pas d'ici-bas, notre citoyenneté est céleste, donc ça ne nous encourage pas beaucoup à nous impliquer. En tout cas, on va prendre ce que le verset nous dit ici. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La politique, c'est l'organisation de la cité, de la ville. Qu'est-ce qui va élever une ville? C'est la bénédiction des hommes droits. Voilà. S'il y a des bons citoyens, des citoyens droits, la ville, elle va mieux. Et c'est peut-être ça notre programme politique, en fait. C'est d'être des bons citoyens et aussi d'annoncer l'évangile pour qu'il y ait encore plus de bons citoyens. Et là, la cité va être mieux organisée, va mieux fonctionner. Quand les justes se multiplient, la nation progresse. Enfin, quelque chose, il y a un autre verset des Proverbes, c'est le Proverbe 29, verset 2, qui dit ceci. Ensuite, comme un lion rugissant et un ours à la poursuite de sa proie, tel est le dominateur méchant d'un peuple pauvre. Bon, là, je ne peux pas m'empêcher de penser à certaines républiques bananières, comme on dit, où on a, c'est vrai, des personnes à la tête qui cherchent uniquement des intérêts personnels, qui vivent dans des palais luxueux et qui dominent sur un peuple pauvre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu a en horreur, on peut dire. Ça montre qu'à partir du moment où on a l'autorité, on a aussi une grande responsabilité. Et donc avoir comme ça du pouvoir et vivre le pouvoir dans le mépris de ses administrés, dont Dieu redemandera compte un jour. N'en doutons pas. Mais une note d'espoir. Le cœur d'un roi dans la main de l'Éternel est des ruisseaux d'eau. Il l'incline à tout ce qui lui plaît. Bon, on a des exemples dans la Bible d'empereurs, même idolâtres, qui ont servi la cause de Dieu. Je pense à Cyrus en particulier. Tout d'un coup, il a pris conscience qu'il avait des comptes à rendre à Dieu. Il a autorisé les Juifs à aller reconstruire leur ville. Il leur a donné un peu plus de facilité. Bon, alors ça nous encourage, là aussi, si on veut avoir un rôle politique, à prier pour les autorités. Voilà quelque chose de concret qu'on peut faire, en tout cas. 1 Timothée 2 nous dit « Priez pour ceux qui sont haut placés ».